Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Sas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinécure saison 2, épisode 3. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient visibles en VOD ou en streaming. Comme je vous l'ai annoncé en début de saison, cette année je vais pousser un peu plus loin mes recommandations et relier les 4 films que je vous propose chaque mois avec une sorte de fil rouge. Qu'est-ce que notre identité ? Est-ce qu'elle est constituée des valeurs dans lesquelles nous croyons, qui, accumulées, donnent une idée de qui nous sommes ? Est-ce qu'il s'agit d'un agglomérat d'actes qui vont démontrer au reste de nos concitoyens ce que nous sommes par nos actions et nos agissements ? Est-ce qu'il s'agit de nos traits physiques qui permettent de nous différencier plus facilement de tous les autres êtres au milieu desquels nous évoluons ? Ou bien, est-ce que ce sont justement nos relations avec ces autres qui vont impacter notre être et faire de nous ce que nous sommes ? Et si c'était un peu tout ça à la fois ? Je m'interroge, comme vous l'avez certainement fait vous aussi, souvent sur la question de l'identité et de ce qui la constitue. Bien entendu, je ne suis pas le seul, et le cinéma aussi a eu l'occasion de le faire, en nous fournissant souvent des œuvres dérangeantes, malaisantes parfois, drôles quelquefois. Une fois que j'ai plongé dans les archives des films que j'avais vus, je me suis rendu compte qu'un thème lié à celui de l'identité, et récurrent, était celui de la chirurgie plastique. Intéressant dans la mesure où la question est hautement visuelle et donc parfaitement adaptée aux médias cinéma, et qu'elle est souvent un vecteur d'horreur psychologique. Parmi les chirurgiens plastiques les plus dérangeants, on retiendra bien entendu Pierre Brasseur dans Les yeux sans visage de Franju, film que j'ai longuement hésité à inclure dans ma liste mensuelle et qui finalement n'y sera pas. Je pense bien entendu aussi à Volteface, immense classique des années 90 qui n'avait pas besoin de moi pour que vous le découvriez, ce qui l'a finalement laissé sur la touche. Au final, le chirurgien plastique est souvent présent au cinéma et il accompagne la plupart du temps le questionnement de l'identité dans les films. J'ai donc été pioché dans cette production 4 films ce mois-ci qui, normalement, devraient attiser votre curiosité. On va commencer par plonger dans la vie d'un chirurgien traumatisé qui cache un lourd secret dans sa demeure froide de Tolède, où l'identité sexuelle se mêle à une vengeance personnelle. Puis on partira du côté des États-Unis parano des 60s, où décidément le rêve américain est mort et enterré, ce qui fait naître beaucoup d'interrogations. Cette époque étrange où les studios ne savaient plus du tout à quel sens se vouer nous a donné certains des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art, qui ont souvent interrogé l'identité en général, et celui-ci la question du choix en particulier. Puis c'est un retour en Espagne, du côté de Madrid cette fois-ci, pour une dystopie personnelle où il sera aussi question d'identité et de relations nouées. Enfin, on partira du côté de San Francisco pour une balade un peu plus légère et pour retrouver l'un des couples mythiques de l'âge d'or de Hollywood. Allez, comptez jusqu'à 10 et laissez-vous partir, vous êtes entre de bonnes mains. La piel que habito de Pedro Almodóvar durait 2 heures. Roberto est un chirurgien plastique reconnu avec une carrière qui force le respect et qui, accessoirement, garde prisonnière chez lui une jeune femme mystérieuse sur laquelle il teste ses recherches sur la peau. Une série d'événements va amener la captive et son ravisseur à se rapprocher. Je vous ai déjà parlé d'Almodóvar dans Cinécure épisode 7, à l'époque je vous avais recommandé Hable con ella. 10 ans et 5 films plus tard, la production du réalisateur ibérique n'a pas faibli. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est non seulement l'un des réalisateurs les plus prolifiques du XXe siècle, mais aussi l'un des plus constants. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà il produit beaucoup, mais en plus sa production est qualitativement élevée. Ça n'est jamais vraiment mauvais, raté ou nul. Ça peut effectivement être dérangeant, et son univers est pour le moins particulier, ça oui, mais ses films ne sont jamais vides ou creux. Et je crois que le secret pour y parvenir tient entre autres à ce que Pedro Almodóvar cache, parfois très adroitement, parfois moins, ses obsessions dans tous ses films. Il n'est pas rare de voir un réalisateur raconter la même histoire encore et encore. Je vous en parlais le mois dernier avec Oliver Stone pour Any Given Sunday, en déclinant plus ou moins la forme pour obtenir une continuité sur le fond. Mais je crois que l'Espagnol est allé plus loin que ça. Pour moi, il a réussi, il y a quelques films, à transcender la forme pour ne s'attacher qu'au fond. En somme, il s'impose des cadres qu'il va littéralement faire exploser pour raconter une histoire qui est souvent personnelle, ce qui témoigne d'une grande maîtrise des moyens pour arriver à ses fins. C'est le cas dans Volver, c'est aussi le cas dans La Mala Educación et plus récemment encore avec Dolor y Gloria. Alors même si La piel que habito ne raconte a priori rien de personnel, c'est aussi un cas parfait d'almodovarisme puisque le réalisateur va reprendre les codes du thriller et même du giallo pour les détourner en imposant un rythme à lui et surtout des thématiques bien personnelles.
Soy tuya. Estoy hecha a tu medida. Y acabas de decirme que te gusto.
He dicho eso.
Pensé que me trajiste aquí prácticamente vivimos en la misma habitación.
D'ailleurs, le film est une adaptation très remaniée du roman dont il est issu, Migal, de Thierry Jonquet, qu'Almodovar a mis plus de 10 ans à pondre. Il tord complètement le matériau initial pour y instaurer ses thèmes à lui. La maternité, d'abord, avec le personnage de Marilia, joué par Marisa Paredes, actrice fétiche du réalisateur s'il en est, que l'on retrouve notamment, mais pas seulement, dans Todo sobre mi madre, tout sur ma mère en français, et dans Tacones lejanos, talon aiguille en français, et qui est la mère par excellence. Un thème qui relie aussi celui de la féminité, la faculté d'Almodovar à parler de la parentalité à travers ces femmes fortes qui sont souvent des mères qui portent la responsabilité des enfants, du couple et de tout ce qui s'ensuit, et qui, sans broncher, vont faire face à une série de traumas et fascinantes. La déclinaison de cette obsession dans le cadre d'un personnage presque néfaste, un peu hérité d'ailleurs de celui que campait avec une froideur glaçante Alida Valli dans Les yeux sans visage de Franju, dont je vous parlais en introduction, est fantastique. Au centre de l'intrigue, cette féminité déroute et dérange. Qu'est-ce qu'être une femme ? Souvent, on l'a vu chez Almodovar, être une femme, c'est être une mère, donc une épouse, un pilier familial. Selon le personnage qui la porte, elle est tour à tour objet de convoitise, motif de fierté ou alors sacerdoce. Avec La piel que habito, Almodovar explore un autre sous-texte beaucoup plus dérangeant qui précède le mouvement MeToo si on considère que celui-ci éclate avec l'affaire Weinstein. Il y est question de manipulation, de domination et de changement de perspective, évidemment. Cela m'amène forcément à vous parler de la masculinité. Si les femmes sont ultra présentes dans l'œuvre d'Almodovar, les hommes brillent souvent par leur absence. Ils ne sont pas nécessairement écartés de l'intrigue, il y a beaucoup d'hommes qui peuplent l'œuvre de cet artiste, mais les hommes ont rarement la part belle dans ces films. Des objets de désir, des manipulateurs, des enfants un peu benés. Là, on a un très bel exemple de masculinité toxique avec, bien entendu, le personnage de Banderas qui, paraît-il, s'est fait rappeler à l'ordre par le réalisateur après quelques jours de tournage. Almodovar voulait quelque chose de très subtil, un comportement dérangeant, presque illisible, et je dois dire que l'acteur livre une performance fantastique. Mais le côté le plus jouissif du film reste la bascule qui s'opère et nous emmène d'un côté et de l'autre de cette frontière homme-femme, le tout avec une esthétique soignée. La photo étant l'œuvre de l'un des plus proches collaborateurs du réalisateur espagnol, José Luis Arcaine. A noter quand même quelques moments qui pourraient choquer votre sensibilité, ce n'est clairement pas un film à mettre entre toutes les mains, c'est psychologiquement et graphiquement violent, et il y a plusieurs scènes non équivoques qui peuvent vous remuer. Si vous avez les armes, cependant, le film est incroyable, et ce qu'il véhicule aussi. Si vous aimez les univers loufoques, la manipulation et les films denses, alors La piel que habito est fait pour vous. Il est disponible en streaming sur Canal+. En 2011, en France, on pouvait aller voir au cinéma Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne de Steven Spielberg, The Artist de Michel Hazanavicius et Hugo Cabret de Martin Scorsese. Seconds, titre français L'opération diabolique de John Frankenheimer, durée 1h46. Arthur Hamilton est un banquier ennuyeux qui porte un lourd secret. Un jour, il reçoit un coup de fil étonnant. Il s'agit de son ami Charlie qui est pourtant mort il y a des années. Celui-ci a une proposition à lui faire. Encore un réalisateur dont je vous ai déjà parlé, il y a quelques temps déjà. C'était dans Sinecure saison 1 épisode 9 et c'était à propos de The Train, un thriller ferroviaire musclé sur fond de Deuxième Guerre mondiale. Deux ans plus tard, Frankenheimer, un réalisateur dont j'espère qu'il est admis de vous qui m'écoutez, qu'il est clairement sous-coté, revient avec cette espèce d'ovni que lui-même qualifiait d'objet étrange. Je le cite, « Les gens qui voulaient voir Rock Hudson dans un film ne voulaient pas le voir dans ce rôle, et les gens qui aimaient l'histoire ne voulaient pas voir Rock Hudson dans ce rôle. Il restait donc un total de 6 personnes environ qui étaient intéressées par le film. » Fin de citation. Un film sorti dans les années 60 qui a fait un bide en salle avant de petit à petit occuper une place de niche auprès des cinéphiles. Il n'en faut pas plus pour attiser ma curiosité. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, les 60s pour les studios américains qui sortent de l'âge d'or, c'est l'enfer. Les publics n'obéissent plus à la logique mercantile qui a pourtant régné jusque-là. Certains films sortent sans happy ends, sans perspectives optimistes et deviennent un succès. Les directeurs des studios sont perdus et se mettent à produire un peu n'importe quoi dans l'espoir que cela parle à la jeune génération qui est celle qui va au cinéma en masse pour voir ces miracles-là se produire. Si vous ajoutez à ça un climat général plutôt morose avec la mort de Kennedy, celle de Martin Luther King, vous avez une décennie qui remet en cause l'ordre établi et une création artistique qui accompagne, voire même précède, toute cette ébullition. Une époque propice donc au questionnement et la remise en cause de l'identité populaire. Qui sommes-nous ? Que voulons-nous et où allons-nous ? En termes de cinéma, la nouvelle vague est arrivée en France et elle impacte la forme des films et secoue elle aussi une petite routine bien confortable. Son onde de choc est internationale et ne laisse pas indifférents les réalisateurices et les stars de l'écran outre-Atlantique. Commencent à apparaître des films étranges, financés par des studios angoissés de louper le coche et de perdre pied avec la réalité d'un public qui demande des films en accord avec ses attentes. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Two Weeks in Another Town de Vincent De Minnelli dans l'épisode 8 de Cinécure. Plus tard, ce seront The Swimmer de Frank Perry et Sidney Pollack et The Graduate de Mike Nichols. Bref, les choses bougent et si on parle de cette décennie, il serait injuste d'ignorer John Frankenheimer. De 62 à 66, celui-ci sortira 6 films qui non seulement s'inscrivent parfaitement dans ce contexte paranoïaque, mais des films qui en plus vont permettre à quelques acteurs et quelques actrices d'acquérir une certaine intellectualité. Un peu en écho à The Manchurian Candidate, le film qui répond clairement à la disparition de Kennedy avec ses accents psychotiques, Seconds vient compléter un portrait des États-Unis où le rêve américain est mort et enterré et où les cadavres sortent du placard. Voilà pour le contexte.
I ought to be a painter.
Exactly. You see, painting allows you a basic creative outlet, as well as providing an environment in which these sublimations will have free vent. Now, let's take a look at the program we've worked out for you. Certificates of study. Abroad. Notices of first 6 one-man shows. Your pictures are realistic in treatment, but deal with poetic imagery and choice of subject. Not that I pretend to be a critic of painting.
Maintenant, adressons les particularités de cette œuvre étrange. Déjà, la musique, signée Jerry Goldsmith, est profondément dérangeante, extrêmement dépouillée et très solennelle. Elle accompagne à merveille le générique malaisant pensé par Saul Bass, où tout semble étiré et malléable. Dès le début du film, le climat est étouffant. Climat dans lequel Frankenheimer va réaliser plusieurs exploits. D'abord, cette idée géniale de caster Rock Hudson, dont la tragédie personnelle résonne étrangement avec la fiction dont nous sommes les témoins. Acteur ayant atteint le statut de mégastar dans les années 50 à la faveur des films de Douglas Sirk, de quelques westerns, mais aussi et surtout grâce à son duo avec Elizabeth Taylor dans Giant de George Stevens, pour lequel il est nominé à l'Oscar du meilleur acteur, il tombera peu à peu en disgrâce dans les années 60. Seconds est un de ses derniers films avant de partir du côté de la télé. Au niveau personnel, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus tragique se joue. Souvent choisi pour des rôles physiques étant donné sa carrure, Hudson a été marketé par ses employeurs, par les studios donc, comme le belâtre, le macho. Une affectation dont il a toujours souffert, d'abord parce qu'il désirait jouer des choses un peu plus profondes, mais aussi parce qu'il était homosexuel. Déchiré entre cette célébrité et sa vie personnelle et le secret qu'il portait, Hudson a jusqu'à sa mort, et l'annonce publique de son homosexualité, probablement réalisée d'ailleurs sans son consentement, certainement vécu une vie très inconfortable et qui aurait donné très cher pour lui aussi avoir une seconde chance. Outre Hudson, que l'on ne voit qu'au bout de 40 minutes de film par ailleurs, autre marque du courage de Frankenheimer, il y a le choix de John Randolph, un acteur qui avait été blacklisté lors de la chasse aux sorcières de McCarthy. Randolph, plus que tout autre acteur dans l'industrie, n'avait rien joué depuis plus de 15 ans. Le film est par ailleurs produit par Kirk Douglas, qui avait été envisagé au début pour interpréter le rôle de Anthony, qui est finalement revenu à Hudson, et par Hudson lui-même, qui montre ici encore une fois son implication. Du côté de la réalisation, plusieurs choix audacieux sont annonciateurs dans ce film d'une certaine manière de mettre en image l'angoisse et la peur. L'utilisation de caméras à l'épaule, de harnais pour fixer les caméras sur les acteurs directement, renforce le sentiment d'étouffement et de bulle dans laquelle les personnages évoluent. Du début à la fin, vous avez la sensation que quelque chose ne va pas. Mais Frankenheimer ne fait que vous montrer des gens, des endroits banals, des situations communes. Ce qui ne va pas, c'est ce monde dans lequel nous vivons, c'est notre quotidien. C'est la société qui contacte Arthur Hamilton et qui justifie ses exactions par un discours rassurant, convaincant et qui nous assure que tout va bien se passer. En définitive, plus encore qu'un questionnement sur notre identité, Seconds est aussi une charge contre l'Amérique des corporations, contre l'avènement des entreprises comme seul vrai pouvoir dans le monde. Si vous aimez la production cinématographique américaine des 60s, la dénonciation des abus de pouvoir commis par les entreprises et les intrigues dérangeantes, alors Seconds, l'opération diabolique en français, vous plaira. Il est disponible à la location sur la Cinéthèque pour 2,99€. En 1966, on pouvait voir dans les cinémas français Les Centurions de Mark Robson, Le Grand Restaurant de Jacques Besnard et Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Abre los ojos, titre français Ouvre les yeux d'Alejandro Amenábar, durée 1h53. César, un jeune héritier séducteur et séduisant, sort avec Nuria, une jeune femme amoureuse de lui et un peu obsessive. Lors d'une soirée, il rencontre Sofia, une jeune actrice en devenir convoitée par Pelayo, le meilleur ami de César, beaucoup moins confiant et moins heureux en amour que lui. Jalouse, Nuria va mettre fin à ses jours et tenter de tuer César dans le même temps. Survivant mais défiguré, celui-ci va devoir réapprendre à vivre sa vie dans un monde beaucoup plus hostile où rêve et réalité semblent se mélanger. Vu depuis 2022, on est en droit de se demander ce qui est arrivé à Alejandro Amenábar. Revenons 25 ans en arrière. Nous sommes en 1997 et Amenábar s'est fait une petite réputation dans le monde de l'horreur avec Tesis, son film qui a raflé tous les Goya, équivalent des Oscars en Espagne. 2 ans plus tard, le voilà qui débarque avec Abre los ojos, donc Ouvre les yeux en français. On aurait été en droit d'attendre un film de genre, quelque chose de plus proche de l'horreur, mais c'est un film qui en réalité s'en éloigne et va plutôt piocher du côté des films à twist. Au-delà pourtant du côté presque technique de ce genre de film, un peu comme Usual Suspects, sorti d'ailleurs à peu près à la même période, Amenábar apporte une touche personnelle avec un vrai propos sur l'identité. Si les 2 premiers films dont je vous ai parlé évoquent l'identité sexuelle pour le premier et ce que l'on appelle en philosophie l'identité numérique, c'est-à-dire la relation qu'un être entretient avec lui-même au cours de sa vie tout en disant quelque chose de l'identité collective des États-Unis pour le deuxième, ce film revient sur les relations au cœur de l'intrigue et sur leur impact sur notre identité. En l'occurrence, César n'est quasiment défini dans le film que par le regard des autres. Pelayo envie sa confiance et sa facilité avec les femmes, Nuria est amoureuse de lui et des relations intimes qu'il lie avec Sofia, qui est plus méfiante du fait justement de ce qui lui est rapporté soit par Pelayo, soit par César lui-même. Il me semble qu'Amenábar parle beaucoup de ses congénères et de comment leur regard marque l'identité de quelqu'un au sein du groupe. Outre ces regards, il y a aussi la qualification que les personnages font de leurs relations et de comment celles-ci se nouent. En 1997, Amenábar a 25 ans, il parle d'une certaine jeunesse qu'il connaît ou qu'il a connue et de la façon qu'elle a de se lier.
Hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal la vuelta a casa?
Bien. Bueno, tuve un sueño horrible.
¿Soñaste que no volvías a verme?
Sí. Salgo de tu casa, voy a coger el coche y resulta que la otra petarda me ha estado siguiendo.
¿Quién, la tal Nuria?
Sí. Se acerca y me dice, ¿qué, te llevo? Se pone tan pesada que no sé cómo decirle que no. Total, que me subo en el coche y va la tía, acelera, 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 atrás. Y se suicida conmigo dentro.
¡Qué horror!
Y lo peor no es eso. Lo peor es que se me queda la cara completamente destrozada, en plan fantasma de la ópera. Uf, no veía la manera de despertar. Era un monstruo.
Si le contexte est intéressant, ce qu'il est encore plus, c'est la façon qu'Amenábar a de tirer sa barque vers la rive de ses obsessions. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier cette image. Comme il le fera par la suite avec Mar Adentro ou encore The Others, il va instiller un élément fantastique dans Abre los ojos. Cet élément, ce sont bien sûr les rêves que César fait et dans lesquels il nous entraîne, nous, spectateurs, sans jamais que le film ou la réalisation ne nous indique si nous sommes dans le rêve, dans la réalité, ou bien encore ailleurs dans un monde qui digérerait les deux. Au centre de ce film, on retrouve donc notre rapport au fantasme mis en scène avec un grand talent. Ce rapport au rêve marquera d'une certaine manière les esprits, d'une part puisque le film sera un succès à l'international, un succès qui va attirer pas mal de monde, à commencer par le couple à l'époque Cruise-Kidman, Cruise qui jouera dans le remake américain Vanilla Sky, et Kidman qui jouera quelques années plus tard dans The Others. Et d'autre part, parce qu'on retrouvera dans beaucoup de films la même manière de mettre en scène le rêve et de perdre le spectateur. Je pense bien entendu à Inception et à sa scène du restaurant qui fait écho à une scène en particulier de Abre los ojos, je vous laisse découvrir laquelle. Les acteurs ne sont clairement pas au top de leur jeu, mais j'ai une tendresse pour Eduardo Noriega, qui est un acteur qu'on ne voit plus tellement dans des productions à vocation internationale aujourd'hui, et c'est regrettable. Penélope Cruz a quant à elle eu la carrière qu'on lui connaît, et c'est marrant de penser que ce film a joué un rôle si important dans son parcours. J'ajoute que si les décors ont pris un petit coup de vieux et qu'on voit qu'Amenábar a fait des miracles avec très peu d'argent, l'histoire, elle, reste très actuelle et tout à fait acceptable en 2022. Je pense que l'implication d'Amenábar à toutes les étapes du film n'y est pas pour rien, puisqu'il écrit, réalise et compose la musique de son film qui devient du coup une œuvre ultra personnelle et probablement l'une des plus représentatives du cinéma espagnol qui décidément s'affranchit de beaucoup de choses dans les années 90 alors qu'il ne bénéficie absolument pas des mêmes aides que son cousin français. A noter d'ailleurs la présence d'Alain Sard parmi les producteurs du film, ce qui permet entre autres d'avoir un acteur français à la distribution dans un rôle clé qui plus est. Si vous aimez les films qui vous entraînent entre rêve et réalité, si vous avez toujours rêvé de voir Madrid complètement vide, et si vous voulez voir Penélope Cruz dans un de ses tout premiers rôles, alors Abre los ojos, ouvre les yeux en français, est fait pour vous. Il est disponible sur Canal+, en streaming. En France, en 1997, on pouvait voir Le cinquième élément de Luc Besson, Volte-face de John Woo et The Full Monty de Peter Cataneo. Dark Passage, titre français Les Passagers de la Nuit de Delmer Daves, durée 1h46. Accusé à tort du meurtre de sa femme et enfermé au pénitencier de San Quentin, en Californie, Vincent Parry réussit à s'évader et à rejoindre San Francisco avec l'aide d'Irene Johnson, une jeune femme spontanée et déterminée. Alors qu'il cherche à comprendre ce qui a pu lui arriver, Vincent fait une rencontre qui pourrait changer sa vie. Pour terminer cette petite balade dans les cabinets des chirurgiens, je vous propose quelque chose de plus léger. Troisième interaction à l'écran entre ceux qui sont devenus depuis 1944 et leur première collaboration mari et femme, je veux parler, vous l'aurez compris, de Lauren Bacall et de Humphrey Bogart, Dark Passage a quelque chose de particulier et d'un peu étrange. Bon, bien sûr, ce n'est pas du Howard Hawks, mais on n'est pas si loin des exercices de style qu'étaient To Have and Have Not, où le réalisateur mythique s'était fait défier par Ernest Hemingway de porter à l'écran son roman le plus mauvais, selon les dires de l'auteur, ni de The Big Sleep et de son intrigue incompréhensible et qui au final ne tient pas vraiment la route. Le tour de force tient ici à la forme du film qui sur près de 40 minutes se déroule entièrement en caméra subjective. Si on entend bien la voix de Bogart, il n'apparaît jamais à l'écran et nous vivons presque tout à travers ses yeux. On en retire une sensation étrange qui ressemble presque à un jeu vidéo type FPS, mais surtout ça m'a fait penser aux méthodes de production. Comment réussir à créer ce genre de choses avec les caméras dont ils disposaient à l'époque, qui pesaient une tonne et qu'il fallait mettre en place pendant des heures? Aujourd'hui c'est facile, et on le voit quelquefois, certains films ont même été produits entièrement autour de ce concept. Mais en 1947, quelle personne saine d'esprit voudrait faire ça? Ce choix audacieux signifie forcément tourner au moins quelques plans dans des endroits qui ne sont pas des studios, ce qui nous permet de nous balader à San Francisco dans les années 40 et qui nous rappelle à quel point cette ville est photogénique. Au-delà de ce tour de force, vraiment, on assiste à un film noir, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que le visage de Bogart n'est révélé qu'à plus de la moitié du film avec un petit détour surprenant dans un cabinet de chirurgie plastique pour le moins amateur et une scène de rêve que Henri-Georges Clouzot n'aurait pas renié.
What'll I do?
You won't listen.
Oh, listen, I want ideas. That's what I want more than anything else, ideas. And I didn't kill her. Why should I go back to San Quentin for the rest of my life if I didn't kill her?
I wonder what he could do with your face.
Who?
Friend of mine. Knows his stuff.
How much would he want?
How much you got?
1,000. That's all I've got.
He'd take a couple of hundred.
Yeah. And keep after me from then on.
No, he's a friend of mine.
What's your charge?
Nothing. I've seen him work. He's great. I wouldn't know my own mother after he got through with her.
Vous l'aurez compris, ce film est un pur plaisir de cinéphile, je ne m'en cache pas, mais il ne manque pas de s'inscrire dans le thème que je me suis imposé ce mois-ci, ne serait-ce que parce qu'il interroge lui aussi l'identité, de manière plus large, certes, de son personnage principal. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la plastique, la sexualité ou bien le choix, mais plutôt les actes. Si on considère que ce qui nous identifie sont nos actes, alors que dire des repris de justice? Et jusqu'à quand leurs actes doivent-ils les poursuivre? Dans Dark Passage, titre français Les Passagers de la Nuit, Vincent Parry clame son innocence et se heurte à un mur pour le moins intéressant. Les personnages qui ne le connaissent pas semblent le croire, tandis que ceux qui l'ont fréquenté ont au moins un moment de doute quand ils ne sont pas complètement convaincus de sa culpabilité. Un étrange ressort narratif qui ajoute à l'étrangeté de ce film décidément déroutant par sa forme. Au-delà de ça, tout le monde semble bien déterminé à croire que Parry et l'ensemble du film semblent tendus vers la relation qui se lie entre lui et Irene Johnson, c'est-à-dire entre Bogart et Bacall, pour la troisième fois réunis à l'écran. Parfois, cependant, voir un film pour le plaisir de passer du temps avec les gens par lesquels il est interprété est suffisant. Parfois, voir Lauren Bacall nous parler en nous regardant droit dans les yeux est un plaisir qui lui seul nous contente. Si vous aimez les films noirs, San Francisco et la Californie, les duos mythiques de l'âge d'or d'Hollywood, alors Dark Passage, les passagers de la nuit en français, est fait pour vous. Il est disponible à la location sur Apple TV pour 2,99€. En 1947, sortez sur les écrans français pour Qui sonne le glas de Sam Wood, Quai des Orfèvres de Henri-Georges Clouzot et Chucha de Vittorio De Sica. Ça y est, c'est terminé, vous pouvez revenir à vous tranquillement en salle de réveil. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à le préparer. Il y a des centaines d'autres films où la chirurgie joue un rôle prépondérant et je serais bien curieux d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me conseiller les vôtres sur Instagram ou sur Twitter où vous pouvez me trouver en tant que Charles Eddy. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de votre choix. C'est très important pour le référencement et ça aide le podcast à se faire connaître. Je vous encourage aussi à parler de Cinécure à un maximum de gens autour de vous. On est nombreux à aimer le cinéma. Cinécure est un podcast créé et produit par moi-même, Charles-Édouard Wasselin, et distribué par Vaisseau Hypersensas, dont je remercie les membres pour leur patience et leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure où nous parlons de cinéma en général et parfois des films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours contents de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinécure est toujours dispo sur Letterboxd, vous la trouverez dans mon profil et en description de cet épisode. Je vous rappelle enfin que pour le moment, Ciné Essentiel est entre parenthèses. J'ai une saison 2 dans les tuyaux, mais elle prend plus de temps que prévu à se mettre en place, donc pour le moment, je n'ai pas de date de diffusion à vous donner. Cela dit, vous avez tous les mois une nouvelle interview de publier dans le rendez-vous Cinexplore avec des invités passionnants. On se retrouve donc d'ici 2 semaines à peu près pour un nouvel entretien. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !